Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est très heureux d'être avec vous jusqu'à 14h aujourd'hui. Après, ce sera l'intégral tour. Nous sommes avec le petit nouveau, Mourad Aïtabouche. Il est reporter, il est réalisateur. En fait, il a un CV qui fait toute une feuille. Mais bon, voilà, j'ai décidé.
Je reste, quand même le petit nouveau.
Pour l'instant, oui. Et à la deuxième, je ne le dirai plus. Voyez-vous, c'est comme ça.
S'il y en a une, voilà.
S'il y a une deuxième.
Merci,
certains sont venus plus une fois.
Les comètes,
parti trop tôt. Petit ange.
Nous sommes.
Non, je passe, merci.
Emmanuel Doncourt, journaliste indépendant de Dijon qu'on ne présente plus. Et Jean-Philippe Doux, également journaliste et libraire. Et bien sûr, Charles Magnin. Dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. On parlera biopic après à 13h30. Oui, tout à fait. 13h30. Non, parce qu'il y a un biopic sur De Funès qui arrive avec Pierre Lottin. Il y en a déjà eu un là sur De Gaulle, sur Michael Jackson. Il n'y a plus que des biopics aujourd'hui. Est-ce que vous en avez ras-le-bol? Eh bien, dites-nous tout et puis donnez-nous votre biopic préféré et puis notre humoriste préféré dans Estelle Midi.
Il n'y en a qu'un. C'est Louis Funès.
Et vous savez que c'est sa dernière de la saison.
Évidemment.
Vous revenez
évidemment.
L'année prochaine.
Et, j'espère. Ça va, Estelle?
Bah oui, ça va.
Bon, et bonjour, Mourad.
Bah oui, bienvenue dans l'équipe.
Bah merci.
Tout le monde a été sympa avec vous?
Ouais, franchement.
C'est super. C'est beau parce que même Jean-Philippe a été sympa, sûrement parce qu'il ignore que vous allez le remplacer l'année prochaine. C'est ça, à la fin de saison, on taise les gens. Ouais, Jean-Philippe, Estelle est très lâche. Elle voulait vous l'annoncer par texto au bord de sa piscine le 15 août.
Je n'ai pas de piscine.
C'est vrai?
Non.
Une grande terrasse.
Bon. Emmanuel, mais c'est bon, vous êtes reconduite.
Elle ne dément pas l'info.
Oui, oui, c'est ça, exactement.
Ce qu'elle dément, c'est la piscine. Mais pour Jean-Philippe, elle n'a pas démenti.
On me demande, Estelle, si je suis reconduite.
Mais on verra.
Allez, on va tout écouter un message.
Rendez-vous le 15 août.
Rendez-vous le 15 août, ça sera la grande surprise. C'est un peu une tombola. C'est Koh-Lanta. Voilà. Allez, on écoute un message, Estelle.
Oui, tout le monde est pour ça.
Oui, bonjour, c'est la commission de discipline de la FIFA. Voilà, on a bien reçu la demande d'annulation de carton jaune pour Michael Olysée. On vient de visionner les images, là, et on est désolé, mais ça se voit qu'il refuse délibérément de se faire couper la jambe en deux sur un tacle paraguayen. Donc ça, c'est carton jaune. Hein. Et puis sur un autre angle, en plus, on voit qu'il jette son visage dans le coude d'un autre joueur paraguayen. Eh bien, estimez-vous heureux qu'il n'ait pas pris un rouge. Voilà, bon match quand même.
Hein. Ça va être dur, ça va être dur ce soir, Estelle. Vous y croyez ou pas?
J'ai peur, c'est que je vous dis.
Peur
bah oui, j'ai
vous avez peur.
Peur
de qui? Vous avez peur de quoi?
Du Maroc.
Vous n'avez pas la ref.
Non.
Les yeux dans les bleus, mais Jacquier, voilà.
Oui.
Vous étiez jeune,
Estelle. Elle est un peu
foutique, ça. Excusez-moi, mais je ne vous l'avais pas fait.
Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas ma meilleure imitation. Bon, il y en aura d'autres à 13h50.
Ah non, pas d'imitation, je vais
entendre
ça.
Michel Lebdo. Oui, il y a François Hollande à 13h50, Estelle.
Arrêtez, on dirait Jean Roucas quand on fait des imitations.
Vous avez un manque de respect pour l'humour et pour Jean Roucas, vraiment.
Bon, bah, allez,
tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Pour le bébé de show.
Et tout de suite, c'est le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC.
Ah, crac, crac.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on démarre avec les GG ce matin sur RMC. Marine Le Pen en tête des sondages. Le barrage républicain peut-il encore fonctionner? Selon un sondage IFOP, la chef de file du RN arriverait largement en tête au premier et au second tour de la présidentielle dans toutes les hypothèses testées. Mais pour Abel Boyer, l'éducateur des GG, cette quatrième candidature de Marine Le Pen ne sera toujours pas la bonne.
Ces sondages ne prennent pas le front républicain dont on pensait qu'il était mort et on a vu lors de la dernière dissolution, on a tous été surpris. Ouais. Et même sans le front républicain, combien même elle fait 35%, je pense pas qu'elle ait 15% de report de voix en stock. Donc là, il y a un regain. Pourquoi? Le Rassemblement national est en train de s'aseptiser, de se macroniser. Mais là, le fait qu'elle ait utilisé cette sorte de magouille, le pourvoi en cassation pour récupérer le statut de présumé innocente alors qu'elle a déjà été condamnée deux fois. Pour les électeurs, ça lui redonne une image de candidate anti-système.
Mourad Aïtabouche, est-ce que le barrage républicain qu'il y aura forcément si Marine Le Pen arrive au second tour, est-ce que ça peut encore fonctionner?
Il y a une certaine lassitude, faut pas se mentir. Donc forcément, à un moment, dans mon entourage, certains s'interrogent, surtout si on a LFI face au RN. Bah, c'est pas la même chose que Chirac face à Jean-Marie Le Pen à l'époque. J'avais fait un portrait de Marine Le Pen. J'étais resté longtemps accroché à ses basques. J'avoue que j'avais été un peu surpris, je peux le dire, hein, parce que je la trouvais beaucoup moins raciste. À plusieurs reprises, on m'avait un peu interpellé parmi les militants. Et elle venait à chaque fois. Alors, c'est pas elle qui physiquement renvoyait les militants qui m'avaient insulté, ses gardes du corps. Mais je crois qu'elle n'est pas raciste. Pour autant, très franchement, ça serait difficile si au deuxième tour, on avait Marine Le Pen, le Mélenchon.
Oui, mais alors pour l'instant, on n'en est pas là. Mais justement, le barrage républicain, c'est vrai que de nombreux politiques ont demandé aux Français. Emmanuel Dancourt a beaucoup d'élections aux législatives aussi. Tiens, il y a pas si longtemps que ça. Est-ce qu'à un moment, il faut arrêter le barrage républicain et laisser les Français voter ce qu'ils veulent, en fait?
Moi, j'espère qu'il va encore fonctionner ce barrage républicain, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur la lassitude. Et je vois autour de moi des gens qui finalement commencent à intégrer le RN comme un parti comme un autre. Et là, moi, c'est la première fois que j'ai peur. Pour être tout à fait honnête, d'accord, j'entendais la personne qui disait c'est pas encore pour cette fois. Je pense que c'est pas encore pour cette fois, mais
j'ai peur. Il y aura un barrage républicain, c'est sûr.
Oui, mais est-ce qu'il va être assez fort?
C'est ça.
Le barrage, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait derrière de ce barrage? Parce qu'il y a déjà des barrages qui ont été quand même, comment dire...
Oui, aux législatives, ça a été un peu un pétard mouillé.
Il y a eu, non mais voilà, ça a été très 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 compliqué derrière.
Ça a été pire qu'un pétard mouillé, en fait.
Ça a été catastrophique.
En fait, ça a été une désappropriation, justement, du vote des Français. Il y a beaucoup de Français qui, en fait, ont suivi le Front Républicain, en effet, lors des législatives, en disant, bon, ok, on va pas y aller. Et puis qui, derrière, se sont retrouvés avec une assemblée qui était ingérable, où on a vu toutes les magouilles.
C'est désuni très vite, en fait. Hein,
quand oui, voilà. Ça. Donc, finalement, je pense que la présidentielle, elle arrive après cette séquence-là et qu'en effet, le Front républicain sera beaucoup moins audible qu'il l'a été l'an dernier.
Oui. C'est pas ça, le front ou le barrage républicain. Ce qu'on appelle barrage républicain, souvent, c'est quand, alors, pour une présidentielle, quand tous les partis se mettent à appeler pour voter pour le candidat qui est contre le RN.
Le tout sauf. C'est voilà. Le tout sauf le RN.
On vote
RN.
Tous contre.
Mais là, ça va dépendre de qui aura en
ça,
face.
Ça, je suis persuadé que ça ne marche plus, que les Français n'écoutent plus ce qu'on appelle les consignes de vote. C'est pas parce qu'au deuxième tour, je sais pas qui, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel ou Gabriel Attal vous disent allez voter, que les Français vont suivre les consignes de vote. Ils veulent plus de consignes de vote. Ce qui s'est passé aux législatives, c'est différent. C'est qu'on a retiré des candidats. Des candidats se sont retirés. On a forcé les Français quelque part dans leur choix. Ouais. Et ça, c'est ça qui est douloureux encore aujourd'hui. C'est le côté magouille entre politiques. Là, un deuxième tour, il n'y aura pas de magouille. On peut pas désister des candidats, enlever des triangulaires, etc. Ce sera Marine Le Pen ou Jordan Bardella. A priori, Marine Le Pen contre un candidat. Et là, je suis pas certain que les appels au vote, ça fonctionne encore auprès des Français.
Oui, si Jean-Luc Mélenchon appelle à voter Édouard Philippe, on s'en tire voilà, une grande
sincérité. Le pire, c'est qu'il ne le fera pas. Mais c'est ça le problème aussi.
Bien sûr,
c'est que lui, il ne joue que pour lui.
Oui, mais est-ce qu'Édouard Philippe appellerait à voter Mélenchon? Voilà,
est-ce que les Français attendent des candidats qui donnent des consignes? Ouais. On attend des consignes et des
Français suivent les consignes. Oh. Dans le documentaire que j'avais consacré à Marine Le Pen en 2004, hein, c'était sur le ripollinage du Front National, hein, oui. C'était son objectif et son travail, évidemment, de sape. Elle terminait, c'était les élections régionales, en disant, elle chantait dans la voiture, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Donc on peut supposer, elle avait perdu en 2004. Hein. Donc pour les régionales, bon, elle s'est présentée à 3 reprises.
Oui, mais...
Jamais 304, ça se dit pas.
Bah, là, c'est la quatrième. Enfin bon, et puis cette campagne, elle se fait quand même dans un climat particulier parce que elle a quand même une menace judiciaire, voilà, au-dessus de la tête. Et si ça se trouve, elle ne sera même pas finalement candidate en 2027.
Très compliqué pour
2027.
Elle. Mener campagne avec.
Exactement.
Très très compliqué.
Alors c'est sûr qu'il y aura un front contre elle sur les attaques, etc., sur son bracelet, pas son bracelet, etc. Ça c'est sûr que tout le monde va se réunir là-dessus en tout cas. Le morning RMC, face à la canicule, la SNCF est-elle totalement dépassée? Un tiers des TGV sont annulés sur les lignes Paris, Clermont, Limoges, Toulouse, Bordeaux, Marseille. Seuls 3 intercités sur 4 circulent et le RER est arrêté sur certaines portions. Explication du spécialiste des transports, Arnaud Aimé.
Le problème pour le système ferroviaire, c'est que c'est déjà la troisième vague de chaleur. Et donc les matériels roulants, comme on dit, c'est-à-dire les trains proprement dit, les locomotives, les wagons, ont déjà été fortement éprouvés par les deux vagues précédentes. Et ça nécessite aussi de l'entretien, de la maintenance pour affronter la troisième vague qui se produit. Et puis aussi pour assurer le maximum de disponibilité des trains le jour où il y a beaucoup de voyageurs qui circulent. Et ce jour-là, c'est pas en semaine comme aujourd'hui.
Emmanuel Dancourt, vous qui prenez très souvent le train, vous trouvez la SNCF dépassée ou c'est logique ce qui se passe?
Alors je pense qu'on est, tous les secteurs d'activité sont dépassés par la canicule, hein, puisqu'on en a parlé dans plein de secteurs d'activité, ne serait-ce que sur ce plateau. Donc la SNCF, de manière très logique, de même qu'en hiver, elle est toujours dépassée. En automne, il y a les feuilles qui font glisser sur les rails. Quand il pleut beaucoup, il y a les inondations. Forcément, la SNCF, elle se prend en premier lieu et de plein fouet tout ce qui nous arrive au niveau du climat. Donc oui, elle est dépassée. Moi, j'ai la chance que mes trains ne soient pas annulés. Tu m'as prévenu ce matin en disant, t'es sûr que tu rentres à Dijon, toi? Mais oui, bien sûr. Après, l'entretien du matériel ferroviaire, c'est une filière spécifique de la SNCF qui est responsable de ça. Elle a des budgets pour ça. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on a eu quand même une canicule à 15 000 morts en 2003 et que là, on a l'impression de découvrir que...
Alors, on a qu'à faire une journée de solidarité pour la SNCF.
Non, mais qu'il y a des canicules. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas anticipé, que ce soit pour les logements, pour les écoles, pour les EHPAD et donc pour l'entretien du matériel roulant, qu'on n'a jamais anticipé le fait qu'il y aurait des canicules. J'imagine que dans d'autres pays, tout ça existe depuis longtemps. Et nous, on est, alors je sais que la ministre n'est pas d'accord, mais on est quand même, je trouve, très en retard sur le sujet.
Après, c'est quand même gênant d'annuler un TGV parce que,
bien sûr,
au cas où la clim saute à un moment et au cas où ton voyage de 4 heures, il dure finalement 7 heures.
J'ai pas eu de clim la dernière fois en rentrant de l'émission. Oui. On était, mais trempés en sortant du truc. Ouais. Mais au moins, on est arrivé à destination. Ils ont pas annulé le TGV.
Principe de, principe de précaution. Est-ce qu'on doit juste prévenir les gens en disant, il y a un risque, mais vous prenez votre risque?
Oui, on est les premiers ensuite à en faire un sujet quand les gens sont au bord des voies pendant des heures en attendant qu'on vienne rapporter des cartes.
Mais après, tu peux
entourer.
Si on te dit, t'as un Paris-Toulon et on te dit, écoutez, normalement, c'est 4h10, mais peut-être que ce sera 6h.
Le job de la SNCF, c'est pas monter dans le train et on verra.
Si tu veux pas prendre ton risque, tu parles le lendemain.
Même si tu prends le risque, si t'as un malaise, si ta belle-mère meurt dans le train, tu attaques derrière la SNCF pour mise en danger de la vie d'autrui. Mais moi, ce que je remarque, c'est que, en effet, malgré tout, il y a quand même des TGV. Moi, je prends le TGV tout à l'heure pour repartir à Aix. Et ça, là, pendant 3 jours, les TGV sont complets depuis 2 semaines. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de Français qui descendent. Moi, je parle que pour ma région, qui descendent dans le sud, là, tous les TGV sont complets depuis 2 semaines. Donc, les Français comptent sur la SNCF.
Et bienvenue au mois de juillet, au début des vacances. Malgré
tout, la SNCF assure le service autant qu'elle peut. Et on en fait tellement des caisses quand, en effet, il y a un problème de climatisation. Et je le comprends que la SNCF ne veut plus prendre ce risque d'image aussi. C'est un risque d'image total. Quand il y a un train qui s'arrête pendant 3 heures, c'est horrible pour les gens qui le vivent. Ils sont 200 ou 300 à le vivre. Et tout le pays a l'impression de l'avoir vécu. On a tous l'impression d'avoir été
les naufragés,
on a tous été dedans. Donc c'est normal, je trouve, le principe de précaution.
Les GG ce matin sur RMC, un cocktail pour fêter la loi sur la fin de vie. Est-ce que ça vous choque? Des personnalités de droite sont montées au créneau pour dénoncer cette réception de célébration organisée mercredi prochain au ministère. Un événement scandaleux pour Sandrine Pégan, l'avocate des GG.
Organiser un cocktail pour célébrer une loi qui touche à la mort, c'est un manque de retenue. Et je déteste cette mise en scène.
C'est déplacé.
C'est déplacé. Et pourtant, je suis pour cette loi.
Ouais.
Mais j'estime qu'à un moment donné, tu dois avoir un peu de décence. Et à partir du moment où c'est une loi qui a été votée, et on voit les difficultés,
En plus, si on peut faire des économies, ça serait pas mal.
Oui. Oui, tu vois, pour l'instant, visiblement, ils ont pas la même opinion que toi, puisque c'est pas annulé, mais c'est reporté. Donc, on peut se réjouir qu'un texte ait été adopté sans le sentiment de faire la fête.
Est-ce qu'un cocktail pour fêter la loi sur la fin de vie, c'est choquant, Mourad Aïtabouch, ou c'est une proposition, c'est une préparation de loi, c'est du boulot, on fait un cocktail?
C'est toujours un tout petit peu choquant, surtout quand on a passé un peu de temps dans les EHPAD ou dans toutes ces institutions de fin de vie. On sait ce qu'endurent pas seulement les patients, mais aussi les soignants. Donc c'est vrai que je suis choqué, mais encore une fois, je suis plus surpris. C'est ça qui m'ennuie le plus, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être complètement déconnecté de la réalité des gens. Aujourd'hui, oui, on peut se satisfaire de cette loi, enfin en tout cas ceux qui étaient favorables, je l'étais, mais je peux pas faire un cocktail. Je trouve ça complètement.
Ils ont même pas vu le problème. Ils se sont dit, notre loi elle est passée. On fait un cocktail comme pour n'importe quelle loi. En fait, j'ai l'impression que ça te choque énormément, Emmanuel.
Ouais, ça me choque. Ouais. Ça me fait penser à Hanouna qui fêtait. Je sais plus quelle audience qu'il avait fait. C'était sur la mort d'une petite fille.
Oui.
C'était
quoi? Oui, on a fait tellement. Un drame.
Voilà, après un drame. Ouais. Mais enfin, à quel moment je trouve que cette loi, peu importe ce qu'on en pense, qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on se considère ça, c'est un constat d'échec ou pas, le sujet est tellement grave, et qu'ils aient beaucoup travaillé, j'en doute pas, mais de là à faire un cocktail, mais attention au symbole quand même.
Oui, c'est un progrès sociétal. Ouais. Il y a des associations qui se battent depuis des années pour obtenir le droit de mourir dans la dignité, etc., et qui estiment que c'est une victoire après des années de souffrance pour beaucoup de familles.
On n'est pas en train de parler du mariage homosexuel qui était une vraie avancée sociétale. Il y a plein de gens qui ne pensent pas que c'est un... Et je trouve que les symboles, gaffe aux symboles quand même. C'est... Moi, je suis très choquée. Ouais. Bah ouais, il y a quelque chose comme ça. On fait ce travail comme si c'était pour tout le monde un progrès social. Ça n'est pas pour tout le monde.
Moi, j'ai peur que pour beaucoup des politiques, là, ce soit une victoire politique et qu'au final, ils ne se soient plus battus pour les gens, mais pour eux et pour leur victoire politique. Parce que quand on pense à la personne, il y a des gens qui vont mourir. Alors, sûrement dans de meilleures conditions, avec beaucoup de guillemets, mais n'empêche que c'est pour eux, ils fêtent une victoire politique.
Et puis Jérôme nous écrit sur le WhatsApp, on n'est pas forcément obligé d'organiser un cocktail avec nos impôts. Pour chaque projet de loi voté aussi.
Il a raison aussi.
On peut avoir la victoire un peu plus modeste.
Le Morning RMC, les footix vont-ils nous gâcher la soirée? La France affronte le Maroc à 22h ce soir. Et si vous êtes fan de foot, les supporters d'un soir, ce qu'on appelle les footix, risquent fort de vous énerver. Écoutez ces Parisiens, tiens, rencontrés par notre journaliste Amélie Courtet, qui visiblement ne s'y connaissent pas des masses en football.
Si je vous demande qu'est-ce qu'un hors-jeu?
C'est quand t'as fait quelque chose d'interdit.
C'est quand l'attaquant va passer la balle à l'autre attaquant. Mais non, mais c'est vrai.
Alors, je sais pas, là, quand la balle elle sort.
Combien il y a de joueurs sur un terrain de foot
10 par équipe.
Avec ou sans le goal?
12? Non, 11. J'étais presque.
Si vous deviez me citer, là, 5 joueurs de l'équipe de France.
Kylian Mbappé, mais après, le reste...
Dembélé, je crois. Et ça s'arrête là.
Si, après...
Tu l'as. Charles Magnin, vous pourriez regarder le match ce soir avec ces gens?
Ça serait compliqué. J'ai un très mauvais souvenir de la demi-finale aller du PSG Bayern, le match du siècle que j'ai vu avec un footix, malheureusement, et qui m'a parlé de sa rupture amoureuse toute la soirée. Et donc j'ai essayé d'être un bon ami. On l'embrasse, il va beaucoup mieux depuis.
Mais moi,
la blessure est toujours là. Moi, j'ai dû regarder le replay pour bien revoir les buts.
Jean-Philippe Doux.
Moi, je trouve ça condescendant, en fait. On s'en fout que les gens. On a l'impression qu'il faut avoir la carte de l'expert foot pour suivre un match. Alors que, voilà, c'est comme quand on regarde avec nos enfants, on est content de leur expliquer, etc. Et puis c'est, pour qu'il y ait une liesse collective, on prend tout le monde en fait, et même ceux qui n'y connaissent rien, c'est pas grave.
Mais Charles, il veut pas de liesse collective.
Mais oui, c'est ça. C'est un plaisir solitaire.
C'est un plaisir solitaire. J'hésite
encore,
dire,
parce que j'estime que la Coupe du Monde, c'est pour les footix. C'est super. C'est le moment où tout le monde regarde, etc. Mais par exemple, alors si vous voulez, je vous raconte ma vie. Exemple de footix, et je vais la balancer. Anaïs Sainz, que vous connaissez dans les grandes gueules. Et souvent, on se fait des matchs ensemble, des soirées avec les copains. Elle me dit, ce soir, je lui dis, mais ça va se finir tard. Moi, j'ai envie de bien regarder le match. Je vais le regarder tranquille à la maison parce qu'en plus, on se lève tôt pour le travail demain. Elle me dit, mais t'inquiète pas, on va dans un bar et on se fait que la première mi-temps. Mais ça, c'est le truc le plus foutu que j'ai jamais entendu. On regarde une mi-temps et puis on va se coucher. Non, c'est pas le principe du match. Je suis désolé, Anaïs, mais j'ai envie de voir la fin. J'ai envie de savoir si on est qualifié. Et donc, c'est plus simple de le regarder chez moi.
Moi, en 98, je me rappelle parfaitement des amis ES qui me disaient, mais moi, j'aime le foot. Je lui disais, mais pourquoi? Mais vous voyez la manière dont Zidane caresse le ballon. Il y a un balai avec lui lorsqu'il est au milieu du terrain et qu'il caresse ce ballon, etc. Et je trouvais ça vachement bien, parce qu'en fait, le football, il faut dépasser un peu le côté règlement, parce que le rugby, alors moi, c'est pire, c'est du rugby, comme on dit pour le rugby. Alors là, non, mais on comprend rien, les mêlées, les machins, les bidules.
C'est moi.
J'en étais sûr. Même parfois, notre ami, notre cher regretté Roland Courbis, qui adorait aussi le rugby, parfois il avait des questions comme ça sur le rugby, alors que le foot, sur le football, il était évidemment intarissable. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ça aussi quelque part. Moi, j'aime l'idée, pour faire la fête, que tout le monde puisse se rassembler. Et c'est vrai que c'est important.
Oui,
Olysée, Dembélé, même la façon dont Mbappé, se comportait avec les joueurs du Paraguay, je trouvais ça génial. Franchement, il y avait
de l'humour, il y avait quelque chose, et c'est un patron maintenant.
Non, mais ce soir, c'est
moi,
pas du foot.
Je vais expédier le dîner avec mes copines à 22h. Je vais rejoindre la cité de la gastronomie à Dijon et je vais faire chier tout le monde.
Vous voulez qu'on vous donne les phrases pour vraiment énerver tout le monde?
Vas-y, je prends un florilège.
Oh, bah là, on va. Il y en a tellement.
Le hors-jeu, tout à l'heure, les réponses.
Le hors-jeu, c'est. Oui, c'est vrai. Non, mais demandez les réponses.
Pourquoi ils ont changé de côté?
On marque de quel côté?
Ah oui, on marque de quel côté?
On marque de quel côté? Ouais, on est ça, pour lesquels.
Mais qui l'homme noir là, qui est en jaune?
Je suis pas si footique que ça, parce que tout ça,
pourquoi l'entraîneur il est bon maillot?
Pourquoi les bleus ils jouent en blanc?
En vert ce soir. Honnêtement, moi je l'étais sur le Paraguay, parce que je comprenais tellement pas ce qui se passait. J'ai pas arrêté d'emmerder mon mec en lui disant mais je comprends pas là, il y a pas un carton jaune, il savait plus quoi me dire.
Ça c'est vrai.
Il savait plus quoi me dire. Il me dit mais si, t'as raison. Donc voilà, j'ai été très footique sur ce match là.
En tout cas, le match France-Maroc, c'est à vivre évidemment sur RMC ce soir en direct, en intégralité, à partir de 22h. Et on va tous vibrer. Voilà, devant,
et vous, Estelle, on n'a pas demandé, est-ce qu'il y aura des footix devant la télé ce soir?
Je vais le voir dans un bar. Donc écoutez, non, j'espère.
Ouvert à tous. Ouvert à tous.
Donc, un bar ouvert. Oui, on peut pas dire. Y compris au football. Avec mention football. Voilà, tu vois, voilà, ça c'est pas possible.
Prouver,
donc, écoutez, je vous dirai ça. Je vous dirai ça demain. Dans un instant, on va parler de biopic. Il y en a de plus en plus. Le dernier en date, c'est celui qui va être tourné avec Pierre Lotin sur Louis de Funès. Est-ce que vous en avez un ras-le-bol des biopics de Gaulle, de Funès, de Michael Jackson? Eh bien, écoutez, on en parle dans un instant. Avec vous, à tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h31, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Je vous rappelle qui est autour de la table, Charles Magnien, Jean-Philippe Doux, Emmanuel Dancourt et, je vais le redire, le petit nouveau, Morad Aïtabouche. On a plein de messages en plus sur vous, Morad, d'auditeurs qui vous souhaitent la bienvenue.
Exactement, voilà. Je peux les citer.
C'est l'idée,
Stéphane,
Charles.
Tugdual, James aussi, Annie, qui souhaite la bienvenue au petit nouveau, même s'ils ont bien compris que Morad avait roulé sa bosse, comme on dit. Quelques reportages.
Il nous a déjà fait son pédigré. Là, on aurait mis l'émission. On en sait déjà beaucoup.
Exactement. On en apprend beaucoup.
Quand même, Marine Le Pen, vous attendiez à ce que j'en parle comme ça.
Vous ne savez pas que vous avez fait un reportage sur Marine Le Pen. Donc,
c'est pas votre proximité avec Marine Le Pen.
Non, mais c'est pas ce qu'il a dit non plus. Bon, écoutez, on change de sujet là. Et on poursuit cette midi avec le choix du jour. Et c'est celui de l'acteur Pierre Lotin pour incarner Louis de Funès dans un film dont le tournage aura lieu l'an prochain. C'est un énième biopic après ceux sur Michael Jackson. Jackson, De Gaulle ou encore Marty Suprême, le joueur de ping-pong, de tennis de table, pardon. Et s'il y a autant de biopics, eh bien ça doit être Charles, parce que ça cartonne.
Ah bah oui, Michael, le film consacré au roi de la pop, vient de battre le record du biopic le plus lucratif de l'histoire. Près $1 milliard de recettes à travers le monde. Il bat le précédent record détenu par Oppenheimer, le biopic consacré au père de la bombe atomique, mais aussi Bohemian Rhapsody, le biopic de Freddie Mercury, du groupe Queen. Plus bas dans le classement, on trouve aussi les biopic consacré à Elvis, sorti en 2022, ou bien Rocketman, sur la vie d'Elton John, sorti en 2019. Les biopics de stars de la musique sont devenus un genre à part entière. On pourrait aussi citer Bob Marley l'année dernière, ou encore Aznavour, incarné par Tahar Rahim sur grand écran. En France, le record du biopic le plus vu en salle a longtemps été détenu par La Môme, Marion Cotillard, dans le rôle d'Edith Piaf, mais qui vient donc d'être détrôné par Michael il y a quelques jours. Au-delà de la musique, les projets de biopic se multiplient. J'ai regardé rien qu'en 2024, il y a eu 25 biopics qui sont sortis en salle, par exemple, avec également des cartes pour les biopics plus historiques. On a eu le Napoléon de Ridley Scott, Simone sur la vie de Simone Veil, ou encore en ce moment en salle les deux volets de la bataille de Gaulle qui cartonnent en ce moment, en attendant donc dans un autre genre les futurs projets autour de Louis de Funès ou bien de Johnny Hallyday, aussi très attendu.
Alors, De Gaulle, Michael Jackson, Louis de Funès, est-ce que vous en avez ras-le-bol des biopics, Jean-Philippe Doux?
Alors moi j'adore les biopics parce que j'aime, quand je regarde un film, apprendre quelque chose. Donc j'aime les films historiques, mais véridiques ou basés sur des faits réels, et j'adore les biopics. Enfin, je sors du film en ayant eu un moment de proximité, en ayant peut-être mieux compris le personnage. Oui, alors c'est bon, souvent on sait la fin, mais c'est comme Titanic, on a beau connaître la fin, on regarde quand même.
Moi, j'étais pas sûr Titanic.
Ouais. À chaque fois, j'y crois encore, mais bon. Mais moi, mon biopic préféré, par exemple, c'est Tapis par Laurent Lafitte.
Alors, c'est une série pour le coup.
Oui, c'est une série biopique.
Série biographique.
Mais j'adore. Ou Yves Saint Laurent avec Pierre Niney. En fait,
Yves Saint Laurent, je connaissais très peu sa vie et j'ai mieux compris. Enfin voilà, et j'adore. Et mon fils qui va avoir 12 ans dans deux jours, joyeux anniversaire Charlie. Il est, non, c'est mon petit. Et il a adoré Michael Jackson, donc Michael. Et maintenant, il connaît toutes ses chansons. Il fait le moonwalk.
Et vous auriez pu lui montrer les clips. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait du moonwalk. Vous lui montrez Thriller. Et puis
non, parce que là, il y a la clips. Vie en fait.
Enfin, c'est pas sa vraie vie. On lui voit juste toucher des pluches. Pardon, excusez-moi. Oui, il y a quand même un truc.
Il n'a pas touché que des pluches.
Bah oui, justement.
C'est ça
pas
que vous êtes en train de me dire.
Donc,
oui.
C'est quand même un problème.
C'est souvent une agéographie. Hein. C'est bio.
Oui. C'est ça qui va pas en fait.
C'est souvent autorisé. Oui.
Bah oui, c'est autorisé. Donc en fait, Michael Jackson, il manque quand même. Il faudrait faire un tome 2.
Mais c'est prévu. Mais n'empêche que ça arrête dans les années 80. Oui. La suite est prévue.
N'empêche qu'un biopic.
S'ils édulcorent la suite comme ils ont édulcoré la première partie.
Un biopic, ça porte la culture, je trouve. En fait, ça porte la connaissance d'un homme ou d'une femme qui ont marqué l'histoire.
Emmanuel Doncourt.
Catégorie fan. J'adore. Ah oui, complètement. J'adore lire déjà la vie des gens. Mais alors, les biopics, j'adore ça. Quand le thème est arrivé ce matin, le tout premier qui m'est arrivé là, tout de suite, ça a été Bohemian Rhapsody. J'ai trouvé le biopic sur Freddie Mercury incroyable. Vraiment excellent. Le dernier que j'ai vu au cinéma, c'était le Dylan, Un parfait inconnu, oui. Avec Timothée Chalamet, qui était pas mal aussi. Le Oppenheimer dont tu as parlé, Charles, je l'ai trouvé incroyable. Le Rocketman, j'ai trouvé très très bon aussi. Et ben, il y a aussi les séries. Tu disais Tapi, c'est une série. Alors moi je l'ai pas aimé en l'occurrence ce Tapi, mais The Crown, c'est une série, mais c'est incroyable. Narcos, c'est une série, c'est extraordinaire. Je l'ai fini il y a pas longtemps. Et il y en a un peut-être que vous n'allez pas citer, que peut-être les gens ont pas beaucoup vu. Moi j'ai adoré le biopic sur le peintre anglais Turner qui s'appelle Mr. Turner. Et il est pas très connu, mais je l'ai beaucoup aimé. Et Bright Stars aussi sur le poète américain.
Mais en fait moi ce que je comprends c'est que, par exemple sur Bohemian Rhapsody, il y a énormément de vidéos d'archives sur Freddie Mercury. C'est-à-dire que là vous allez voir quelqu'un qui joue Freddie Mercury, donc qui n'est pas Freddie Mercury. Mais peut-être qu'il joue sublimement bien, mais est-ce qu'il vaut pas mieux, je veux dire, voir Freddie Mercury en concert, le vrai Freddie Mercury,
mais c'est pas le problème.
Le voir en interview, etc., voir des reportages sur lui journalistiques plutôt que d'aller voir un film. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Ce qui est intéressant, c'est l'enfance de l'art, en fait. Ce qui est intéressant dans les biopics, et typiquement, si on reste sur Freddie Mercury, dans quelle famille il a grandi, comment il a été éduqué, quelles sont les failles avec lesquelles il a grandi, quelle a été l'importance de sa première petite amie que j'ai complètement découverte.
Mais il y a dû avoir des livres sur Freddie Mercury.
Mais je vais pas lire un livre sur Freddie Mercury. Voir jouer et d'admirer le travail des comédiens aussi, et particulièrement de celui qui a joué le rôle. J'ai adoré voir ce rôle de composition. C'est comme Marion Cotillard dans La Môme, on a adoré la voir jouer, La Môme.
Alors, c'est intéressant, moi je rejoins Estelle, parce que moi j'adore lire les autobiographies.
Voilà.
Parce qu'on rentre dans la nuance, parce qu'effectivement, je rejoins Jean-Philippe aussi sur l'idée de la connaissance. Effectivement, il faut rentrer. Quand on voit, vous qui êtes libraire, toi qui es libraire, Jean-Philippe, tu sais pertinemment que les gens lisent de moins en moins et c'est terrible. J'adore les biographies, surtout.
Sur Bernard Tapie, il s'appelle Le Flambeur, qui est exceptionnel.
Je suis complètement d'accord. Maintenant, on réduit forcément, il n'y a pas la nuance dans les films. Et là où je suis encore plus d'accord, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait un biopic, on va regarder ce qui est bankable, ce qui est évidemment commercialisable. Un milliard, est-ce que vraiment, à part toucher des peluches, il avait fait ce qu'on sait de Michael Jackson ou l'Abbé Pierre, parce qu'on oublie aussi le biopic.
L'Abbé Pierre, à l'époque, on ne savait pas.
Oui, il a été tourné avant les révélations.
Oui, c'est,
pardon,
c'est malheureux,
on savait, savait la différence, la nuance, c'est que les gens qui savaient n'ont rien dit.
Oui.
Parce que l'image iconique de l'Abbé Pierre était telle qu'on pouvait pas toucher à l'icône. C'est ça, en fait, le vrai problème. Moi, j'ai adoré le Churchill. Pourquoi ? Parce que dans le Churchill, on voit la faiblesse, la vulnérabilité de Churchill au moment où, justement, il est en conflit, ou en tout cas avec Eisenhower, le président américain. Et sa femme qui est là, qui sait pas comment cacher sa fragilité, sa vulnérabilité. Moi, j'ai vraiment adoré. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse des biopics avec un Michael Jackson tel que vous voudriez voir.
Oui, des biopics non autorisés.
Pas une agiographie comme a été ce Michael Jackson.
Après, il est bon ce film. Les couleurs sont incroyables. Les costumes. Moi, j'ai passé mon temps à écouter la musique. J'étais à chanter, à regarder les costumes. C'était un clip ambulant, en fait. C'était pas...
On comprend sa mentalité d'enfant et on se dit qu'en effet, ça peut peut-être... Alors après, c'est extrêmement déviant ce qu'il a fait. Mais du coup, on comprend l'univers dans lequel il est et dans lequel il a été projeté.
Oui, mais ça reste agiographique. trafic, c'est comme l'abbé Pierre. Évidemment. Ce serait bien de refaire un autre abbé Pierre là pour
voilà.
le
coup. Ah bah oui, il serait plus, plus oui. Ah, oui, il y a un petit chapitre à remettre quand même. Philippe nous appelle d'Urzy dans la Nièvre. Vous êtes très nombreux à nous appeler pour parler biopic. Il est retraité. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à vous et toute l'équipe.
Bonjour. Philippe, quel est le dernier biopic que vous avez vu?
J'ai vu que le dernier, De Gaulle le 1, pas le 2.
Ouais.
Et sinon, je suis fan, déjà tout a été dit dans tout ce que les intervenants. Mm-hmm. J'ai été fan de Simone Veil, Freddie Mercury. Bien sûr, on rentre pas dans des détails quand on regarde un film, donc il manque souvent, c'est romancé, souvent. J'ai vu Churchill aussi, en effet, c'était un très très bon film. Donc voilà, moi je suis fan de tous, mais je vais aller voir De Funès certainement. Non, mais je suis fan de tous les biopics. Je pense que ça retrace, même si c'est romancé, je me répète, la vie des personnes, que ce soit historiques ou des acteurs ou chanteurs.
Vous avez l'impression d'apprendre quelque chose, Philippe ?
Tout à fait, même si sur Freddie Mercury, Simone Veil, on en a vu les documentaires, des livres, mais oui, c'est pas rafraîchissant, c'est pas le mot, mais ça nous replonge dans une époque aussi. Enfin, moi j'aime bien, quand je vais au cinéma, c'est aussi le but, donc c'est aussi quelque chose d'intéressant. Mais moi j'ai toujours été fasciné et conquis par tous les biopics que j'ai vus. Et j'ai pas été déçu, parce que forcément, si on compare par rapport au livre, il y a moins de détails, mais voilà, un film qui dure 2h30, on peut pas retracer toute une vie en 2h30. Mais Tapis, j'ai aimé, c'était une série, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.
Merci Philippe, en tout cas, fan de...
Une petite dédicace de 10 secondes, mon épouse adore votre coupe de cheveux, et je vous fais un gros bisou à mes 4 petites filles, Mathilde, Clémentine, Adèle et Emma.
Merci Philippe, en tout cas d'avoir été avec nous. Après, le problème dans les biopics, moi j'adore le cinéma, mais ce que j'aime au cinéma, c'est d'être surprise. Dans un biopic, en fait, on est quand même pas surpris
T'étais au courant de Elvis c'est pas le Elvis, c'était un autre.
Non, mais moi
Elvis,
j'aime pas ça, parce qu'en fait, moi ce que j'aime dans un film, c'est dans un roman. J'aime les romans parce qu'en fait, je sais pas ce que je vais lire. Et quand je vais au cinéma, j'ai pas envie de savoir ce que je vais voir. Je ne veux pas connaître la fin au cinéma.
Oppenheimer, tu connaissais pas.
Mais c'est ce que Oppenheimer, je ne connaissais pas son histoire, donc j'y suis allée. Voilà, j'irai pas voir un biopic sur Freddie Mercury, même s'il est très bien. Mais en revanche, je suis allée voir l'histoire de Stephen Hawking, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même des trucs qui m'échappaient. Il y a des choses comme ça. Mais en revanche, sur Michael Jackson, j'y suis allée pour accompagner mon fils, mais je sais pas, j'ai pas très envie. J'ai envie de découvrir des choses.
Sur Louis de Funès, on va connaître quasiment une grande partie de sa vie où il n'était absolument pas, où il n'était pas du tout connu, à part la traversée de Paris.
Et on va connaître son caractère aussi.
On va connaître son caractère qui n'était pas forcément
joyeux. C'est d'ailleurs risqué.
Il était moins drôle à la maison.
C'est risqué de s'attaquer à une icône comme ça, aussi aimée, aussi populaire, et peut-être.
Oui, mais est-ce que c'est autorisé ou non autorisé? C'est ça le problème, parce que si c'est autorisé,
il faut acheter les droits.
On va te dire qu'il faisait rire tout le monde, etc., et que c'était formidable. Si c'est non autorisé, peut-être qu'on va en apprendre plus, c'est ça. Moi, j'ai toujours un petit problème avec ça. J'ai pas envie d'aller voir quelque chose qui a été contrôlé de A à Z. Mais en tout cas, je suis la seule dans ce cas-là, parce que ça
reste non autorisé. Exactement. Parce qu'on rentre dans quelque chose, quoi. Et on découvre.
Quand tu disais Estelle, moi j'aime bien être surprise. C'est un peu comme un rendez-vous avec un ami qui va te raconter un peu sa vie. Tu connais l'ami, mais tu vas en savoir encore un peu plus. Mm. Et c'est pas parce que on se connaît déjà. Si je te dis tiens viens, on va passer un moment ensemble, tu vas pas dire non ça va. J'ai envie d'être surprise. Je vais aller voir quelqu'un que je connais pas. Quoique. Je trouve qu'on en apprend toujours sur la personne.
Et je ne suis jamais partie avant la fin dans une discussion avec vous, Jean-Philippe.
C'est vrai. Voilà. Ça m'étonne encore.
On va terminer avec les commentaires. Le WhatsApp et puis le sondage.
Un biopic en deux volets d'ailleurs qu'on n'a pas cité, celui sur Jacques Mesrine. C'est Jean-Pierre qui nous le dit, j'avais adoré aussi, c'est très bien joué, même si on connaissait beaucoup de choses de sa vie. À l'inverse, Nicolas nous dit, je ne regarde jamais les biopics, c'est toujours superficiel, je préfère lire des biographies bien documentées et beaucoup plus profondes. Et quand on vous pose la question.
Vous manquiez tous un peu de profondeur.
Estelle, je suis d'accord avec vous.
Quel faillot le petit nouveau. quel faillon, le petit nouveau. Là,
laissez,
c'est pas
laissez Estelle se rattraper un peu. Non, on s'arrête là, Estelle.
Oui, mais on s'arrête là.
Quoi? Ok. Ras-le-bol des biopics. On vous a posé la question.
Alors, excuse-moi, quel est le résultat de ce sondage?
Un résultat extrêmement serré, c'est la marge d'erreur. C'est oui à 52%.
Ah bah, c'est énorme, mais les gens sont d'accord. Les gens sont d'accord avec moi.
Voilà. C'est la première fois de la saison.
C'est l'été, ça arrive. Et il se trouve que ça arrive maintenant.
Une énorme victoire.
Bravo à notre public. C'est l'épaisseur du trait.
Vivant le biopic Estelle.
Il va mettre tout le monde d'accord. Pierre-Antoine Damcourt, le répondeur un peu spécial, parce que c'est sa dernière de la saison. À Pierre-Antoine, à tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h49, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et là, tout de suite, maintenant. C'est la dernière de la saison de Pierre-Antoine Damcourt. Ah ouais.
Le répondeur, il y a les podcasts.
RMC, Estelle Midi.
Le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt.
Eh oui, c'est pas facile, Estelle, aujourd'hui, parce que c'est pas un jour comme un autre, c'est... La dernière du répondeur de la saison. Plus de 1350 messages. Des coups de gueule, des coups de cœur, des coups de boule, des coups de foudre, des coups de taser. Oui, ça c'était votre maman avec sa copine Marie-Claude. Elle en a foutu des coups de taser et des coups de patte dans les tibias. Merci à tous pour vos nombreux messages. Non Estelle, non, je vous vois un peu émue. Ne pleurez pas tout de suite, retenez vos larmes, car il y a les derniers messages qui arrivent. Promis à la fin, vous pourrez exploser en sanglots quand je quitterai le plateau vers mes vacances bien méritées. Estelle,
vous en faites pas un peu trop là?
Oui, tout à fait, un petit peu trop. Voilà, un petit poil trop. Du coup, on se lance un petit message. Allez, on y va. Personne pleure, de toute façon.
Ouais, salut RMC, c'est Yannick de Rouen. Dis donc, je suis un peu emmerdé, là, les copains, parce que je voulais être conducteur d'ambulance, mais mon casier n'est pas vierge. Du coup, bah, je peux pas. Alors, je me suis dit que j'allais faire surveillant pénitentiaire. Mais là aussi, il faut un casier vierge, donc je peux pas, quoi. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que je peux faire comme métier? Merci.
Eh ben Yannick, désespérez pas, vous pouvez faire président de la République.
Mais oui, tout à fait.
Mais oui, mais c'est quand même super bien fait, ce petit système-là.
Bah oui, c'est super bien. Oh allez, là, allez. On reste dans le thème de l'élection.
Exactement.
Bonjour, c'est François Hollande. Vous avez vu, je suis le candidat préféré des électeurs de gauche. Je vais donc me présenter ici au Parti Socialiste. C'est la folie, les gens sont fous de joie. Allez, répétez après moi. Le changement, c'est... Il y a quelqu'un? Ils sont tous partis.
Non, mais ils vont revenir, François. Ils sont juste partis chercher le champagne, c'est ça?
Oui, ça doit être ça.
Ouais, ou
le mousseux.
Ou le mousseux, ouais, peut-être le mousseux.
Allez, on écoute un ancien Premier ministre.
Ah. Oui, bonjour RMC, c'est Jean Castex. Samedi, c'est les grands départs en vacances et nous sommes en train de réviser tous les trains pour assurer 100% de voyages sans problème à nos voyageurs. Mais non, bien sûr, je déconne. Eh oh, on est la SNCF, on a une réputation à tenir. Voix A. Le TGV 23550 à destination de Marseille-Saint-Charles partira avec un retard de 24 heures environ. Et voilà. Ah, je le sens bien ce mois de juillet.
Mais oui, mais c'est ça les vacances, c'est l'aventure. Oui. C'est ce petit frisson qui parcourt notre corps quand on entend le petit jingle dans le train, vous savez. On sait jamais si c'est le wagon-bar pour nous annoncer la formule à 40 euros ou 4 heures de rembourse de retard. Ouais. C'est l'aventure. Ça. Mais c'est ça, moi j'aime bien le suspense. J'aime bien ce petit ting, ting, ting. Ah, retard, qu'est-ce que c'est? On sait pas.
Les messages suivants.
Oui, bonjour RMC, c'est Marine Le Pen. Je suis en déplacement pour ma campagne électorale sur un marché. Ça se passe vraiment bien. Et... Attendez, pourquoi ça bip là? C'est quoi ce moment? Oh putain, c'est Jordan. Jordan! Jordan! Au pied! Schnell! J'ai bien fait de lui mettre un collier électronique parce que dès que j'ai le dos tourné, il s'enfuit. Hein, bon Jordan, tu veux encore aller voir ta princesse? Hein, eh ben c'est fini les conneries. Voilà, je te remets Thalès. Au pied!
Oh, et non mais tout est rentré dans l'ordre, Estelle. Voilà, ça y est, le numéro 2 est retourné numéro 2. Comme Charles. Charles, c'est votre numéro 2, il reste numéro 2.
Mais il sera numéro 1 demain.
Oh, oui.
Bonne vacances, Estelle.
Je reviens lundi.
C'est juste un week-end prolongé. Voilà,
exactement.
Ouais, bonjour Estelle, bonjour RMC, c'est Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Bon, après avoir fait péter le record du prix du baril de pétrole, on a réussi à battre le record de la journée la plus chaude en France. Et là aussi, c'est un peu grâce à nous. Ouais. Allez, champagne. Ouais. Ah, vraiment, pour faire chier les Français, nous on fait une année exceptionnelle. Hein. Allez les gars, on chante. Nique la planète. Nique la planète. Nique, nique, nique,
nique
la planète.
On l'a bien.
Des dividendes pour tout le monde.
C'est bien.
Faut voir.
S'il y a des dividendes, on peut peut-être niquer la planète. Pourquoi pas? On se quitte avec un dernier message. Oh. C'est un message de prévention.
Ceci est un message du ministère de la Santé. En cas de sensation de grosse fatigue, de paupières lourdes et de membres engourdis, vous n'êtes pas victime d'un AVC. Non, vous êtes victime d'une étape de plat sur le Tour de France. Commentaire chiant de Franck Ferrand. Alors détendez-vous et laissez-vous doucement partir vers la lumière de la sieste. La sieste, partenaire officiel du Tour de France depuis 120 ans.
Ah oui. Et ça cogne fort aujourd'hui sur la route du Tour, mais aussi sur les bords des routes du Tour, puisque le peloton est passé par Bétaram. Donc, c'est vrai. Bah, là, ça cogne, attention. En tout cas, bah, on efface tous les messages et puis on recommence à la rentrée, Estelle.
Oui, merci beaucoup. Oui. Pierre-Antoine, on vous retrouve dès le 24 août.
Merci à vous, les amis.
Avec le répondeur et avec un nouveau rendez-vous. Ça va s'appeler Damecourt 2027.
Un petit supplément. Attention, on a brisé. Tourner avec Estelle là, sur le nom de la chronique.
Voilà, et vous allez décrypter pour nous quotidiennement la campagne présidentielle avec votre ton et votre humour.
Il y aura de la matière, je pense.
Il y aura de quoi faire.
On va avoir de quoi se marrer.
Certainement. Merci beaucoup pour cette saison, en tout cas, Pierre-Antoine Damecourt. Et puis, il part en vacances, mais vous pouvez bien sûr le retrouver en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes de téléchargement. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Et tout de suite, on va rejoindre les roues, la route du Tour avec Christophe Cessieu et première étape de montagne. C'est la sixième étape. Aujourd'hui, bonjour Christophe.
Salut Estelle. Bah, aujourd'hui, il n'y a pas de sieste possible là, sur la route du Tour.
Wow.
Même 4000 mètres de dénivelé à s'infuser. Wow. Donc là, impossible de faire la sieste. Il fait un temps caniculaire une nouvelle fois sur la route du Tour. C'est la grande étape des Pyrénées en direction de Gavarnie, avec quand même au passage le col d'Aspin et le col du Tourmalet. C'est une des étapes clés de ce Tour de France. Et on va voir si Paul Sexas est capable de répondre tout à l'heure aux attaques de Pogacar. En tous les cas, c'est l'un des premiers grands rendez-vous de ce Tour de France. Et on est ensemble jusqu'à 18h pour vivre l'étape en intégralité.
Vous la voyez comment cette étape, Christophe ?
Bah, je la vois pour Pogacar, évidemment.
Mais oui.
Mais c'est un moment capital parce qu'on se demande comment va réagir Paul Sexas. Jusqu'à présent, les premières ascensions en Catalogne ou au passage des Pyrénées orientales n'étaient pas vraiment pour lui. Là, ce sont de grands cols. Donc, on va voir ce qu'il vaut, notre petit élu de 19 ans qui fait son premier tour. Si aujourd'hui il est capable de s'accrocher à la route du maillot jaune, alors là, on pourra avoir des espoirs un peu plus importants pour les semaines à venir.
Ouais, et n'oublions pas Vingegaard également. Exactement. Évidemment, la grande bagarre, c'est à partir de cet après-midi, dans quelques minutes. Là, la sixième étape du Tour de France, première étape de montagne, à vivre dans l'intégral Tour, Christophe Cessieu et toute sa bande. Nous, on se retrouve demain avec Charles Magnin, midi 14h. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Bonne fin de journée sur RMC et à demain.